D'accord. Décortiquons un peu tout ça. Parce que, généralement, quand un groupe social tout entier se retrouve frappé d'une disgrâce totale, tu vois...
Ouais, un effondrement complet du statut.
C'est ça. Quand une communauté perd genre ses emplois, son statut, le respect de ses pairs, juste à cause de ses convictions, souvent, la réaction de l'entourage, c'est juste d'offrir des banalités, quoi.
Les fameuses tapes dans le dos.
Exactement. On te dit « t'inquiète pas, la roue tourne », ce genre de truc. Mais aujourd'hui, pour notre plongée en profondeur, on va s'attaquer à l'analyse du docteur David Ali, de Silva, sur un texte antique précis, l'Épître aux Hébreux.
Plus spécifiquement le chapitre 2, les versets 5 à 18, si je dis pas de bêtises.
Tout à fait. Et cette analyse, elle montre une approche radicalement différente des petites banalités habituelles. L'auteur antique de ce texte, il n'a pas juste dit « courage les gars », hein. Il a vraiment, il a rédigé une restructuration philosophique ultra complexe pour transformer la honte de ce groupe en une histoire de triomphe.
C'est vraiment, c'est d'une sophistication redoutable en fait. Ce qu'on voit se déployer ici, c'est pas juste une récitation de textes sacrés ou un sermon basique.
Ouais.
L'auteur, il élabore une véritable ingénierie théologique. Il va tisser des connexions super denses entre la traduction grecque de l'Ancien Testament, des concepts philosophiques stoïciens de l'époque gréco-romaine, et même des attentes apocalyptiques.
Ça fait beaucoup de choses à mélanger.
Ouais, mais l'objectif est très concret. Il cherche pas à produire de la théologie abstraite pour le plaisir. Il fournit une lettre de réconfort pastoral dont l'urgence est palpable. En tant que lectrice, je ressens vraiment qu'il essaye de sauver cette communauté du désespoir psychologique.
Et pour opérer ce sauvetage, il fallait d'abord qu'il règle un problème d'image assez énorme concernant leur leader, Jésus.
Oh, un problème massif, oui.
Oui, parce que comment tu glorifies un dirigeant qui a lui-même subi l'humiliation publique ultime et l'exécution haussée? C'est pas super vendeur, quoi. Et c'est là que l'analyse du docteur De Silva est fascinante, parce qu'il montre comment l'auteur s'attaque au psaume 8 en utilisant ce qui ressemble à une faille linguistique complètement délibérée.
Ouais, le choix du psaume 8, c'est vraiment le pivot de toute son argumentation. Historiquement, ce psaume, il pose une question philosophique assez classique sur la place de l'humanité, du genre « qu'est-ce que l'être humain pour que tu te souviennes de lui ?» ou « le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui », etc.
D'accord.
Et dans son contexte original, tu vois, lié à la Genèse, c'est une célébration totalement collective. Ça parle de l'humanité en général, couronnée pour dominer la création, la nature, tout ça.
Sauf que là, l'auteur des Hébreux choisit carrément d'ignorer la moitié du poème. Il passe complètement sous silence les lignes qui parlent de la domination sur les moutons, les bœufs, les oiseaux.
C'est vrai, il coupe tout ça.
Pour braquer son projecteur uniquement sur l'expression « fils de l'homme ». Et un détail que le docteur De Silva souligne que je trouve super intéressant par rapport à nos traductions modernes.
Ah oui, avec les Bibles contemporaines. Hein.
Voilà. Dans un souci d'inclusivité, beaucoup de traductions récentes mettent genre les mortels ou l'être humain au lieu de fils de l'homme. Et en fait, ça détruit complètement le jeu de mots d'origine, quoi.
Ah, ça le neutralise totalement, oui. Parce que cette neutralisation, elle masque la véritable intention rhétorique du 1er siècle. Il faut se rappeler que dans les évangiles, l'expression « fils de l'homme », c'est le terme favori de Jésus pour parler de lui-même.
C'est son autodésignation, ouais.
Donc, en s'emparant de cette expression ultra précise, l'auteur ne lit plus le psaume comme une vague méditation sur l'humanité, il le recadre comme une prophétie hyper ciblée sur une seule personne. Il prend un texte universel et il l'individualise.
C'est marrant, ça me fait penser au principe du détail caché, tu sais, le fameux Easter egg dans un film.
Oh, j'adore cette analogie.
Genre, tu regardes le film, tu vois un objet un peu ambigu, en arrière-plan, et à la fin, quand l'intrigue est révélée, tu te dis « Ah, mais attends, ce petit détail changeait toute la perspective depuis le début. » Et ici, l'Easter Eggs, qui permet cette relecture, c'est une ambiguïté temporelle qui vient de la Septante.
C'est exactement ça. La traduction grecque de l'Ancien Testament, la Septante, elle offre ici une opportunité incroyable à l'auteur. Le texte hébreu de base, il dit que Dieu a fait l'être humain un peu inférieur aux anges.
Ok.
Ce qui, en hébreu, désigne une mesure spatiale. Hiérarchique, quoi. Tu es un peu en dessous des anges de façon permanente. Sauf que le terme grec qui a été choisi pour la traduction, il a plusieurs sens. Il peut vouloir dire un peu inférieur dans l'espace, hiérarchiquement.
D'accord, ça c'est logique.
Mais il peut aussi vouloir dire inférieur pour un peu de temps.
Pour un peu de temps, donc une simple mesure temporelle, quoi.
Exactement. Et cette petite nuance temporelle, elle change tout. L'auteur des Hébreux s'engouffre dans cette faille pour valider le récit de l'incarnation et de la mort de Jésus.
Ah, malin.
Son argument devient « Regardez, le texte sacré n'a jamais dit que ce fils de l'homme était coincé au bas de l'échelle pour toujours. Il dit qu'il a été abaissé temporairement, juste le temps d'expérimenter la souffrance et la mort avant de remonter et d'accéder à la doxa, la gloire. »
C'est brillant, honnêtement. Ça justifie la souffrance, en fait. Mais l'auteur va encore plus loin. Il affirme que cette souffrance était carrément nécessaire pour que ce leader soit, je cite, « rendu parfait ».
Ouais, rendu parfait. C'est un terme chargé.
Grave. Et là, moi, en lisant l'analyse, j'ai eu une objection immédiate. Parce que le mot « perfectionner », aujourd'hui, ça implique de corriger un défaut, non ?
C'est vrai que de nos jours, on le voit comme ça.
Ça te donne l'impression qu'il y avait, genre, une erreur de fabrication à la base, un bug moral qu'il fallait débugger avec de la douleur. C'est un peu bizarre.
Je comprends tout à fait pourquoi on pourrait penser ça avec notre définition moderne. Mais c'est là qu'il faut regarder le grec. Le texte utilise le mot « telaios ». Et dans l'Antiquité, ça ne voulait pas du tout dire « corriger une erreur ».
Ah bon ? Ça voulait dire quoi alors ?
Le docteur De Silva l'explique super bien. « Telaios », ça signifie « atteindre le but ultime ». C'est l'achèvement d'un processus de développement.
Ok, donc on pourrait comparer ça à un étudiant qui valide enfin son diplôme en fait.
Voilà, c'est une très bonne image.
Le gars, il n'était pas défectueux ou cassé pendant sa première année de fac. Il était juste en formation quoi.
Exactement.
Et le fait d'avoir survécu à un cursus hyper dur, peut-être en mangeant que des nouilles instantanées pendant 3 ans dans une chambre de bonne, ça l'a juste mené à la ligne d'arrivée prévue. La perfection, ici, c'est l'obtention du diplôme.
L'analogie des nouilles instantanées est peut-être pas très antique, mais l'idée est parfaite. D'ailleurs, De Silva cite l'usage de ce terme dans les religions à mystère de l'époque, où un initié est dit perfectionné quand il a réussi son rite de passage.
D'accord.
Et plus proche du texte, on trouve ça dans le chapitre 29 de l'Exode, dans la Septanta. Les prêtres israélites, on disait qu'ils étaient rendus parfaits à la fin de leur long rite d'ordination.
Ah, donc c'est vraiment un terme lié à l'ordination ?
Tout à fait. Donc pour Jésus, passer par la souffrance, c'est pas une punition. C'est littéralement le rite d'ordination obligatoire pour devenir le grand prêtre universel.
Mais alors, si on se place du point de vue de l'auditoire de l'époque, l'impact pastoral doit être énorme. Imagine, t'es dans une communauté qui se fait humilier, cracher dessus, qui perd ses biens. La conclusion logique, c'est de te dire qu'on est maudit, que Dieu nous a abandonnés.
C'est la réaction humaine normale, oui.
Mais si cette lettre te prouve que le pionnier même de ta foi a dû passer par ce rite hyper douloureux pour être perfectionné, ta propre souffrance, elle change complètement de nature.
Elle cesse d'être une anomalie, la souffrance est recadrée comme la preuve irréfutable que t'es sur la bonne voie.
C'est fort ça.
C'est une réinterprétation psychologique incroyable. L'auteur prend l'arme principale de la société, c'est-à-dire la honte sociale, et il la neutralise complètement. Il en fait le seul chemin possible vers l'honneur divin, ce qu'on appelle la timée en grec.
Ce parcours partagé, cette souffrance commune entre le leader et la communauté, ça crée un lien viscéral. Et pour prouver que ce lien est solide, l'auteur il va faire des manœuvres avec les textes qui sont hallucinantes, notamment avec Isaïe.
Oui, et le psaume 22 aussi.
Ah oui, le psaume 22 d'abord.
Le fameux « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné hein ?» C'est un texte que les premiers chrétiens associaient déjà à la souffrance de la crucifixion. Mais l'auteur des Hébreux, lui, il s'en sert pour autre chose. Il se concentre sur la fin du psaume quand le locuteur s'adresse à ses frères.
Il met l'accent sur la fraternité, quoi. Et il pousse ça encore plus loin avec le prophète Isaïe. D'ailleurs, en lisant l'analyse, je me suis demandé, est-ce que c'est pas un peu du braconnage textuel ce qu'il fait là ?
Du braconnage ? Comment ça ?
Il prend un passage du chapitre 8 d'Isaïe, il le coupe, il change le locuteur. Parce qu'à l'origine, quand Isaïe dit « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés », il parle de sa vraie famille. Il avait un fils qui s'appelait Maharshalal-Hashbaz d'ailleurs.
Oui, c'est un nom assez unique.
J'imagine même pas la cour de récré à Jérusalem à l'époque, le pauvre gamin, Maharshalal-Hashbaz au tableau à Haï.
Oui, c'était un fardeau prophétique assez lourd.
Mais prendre les mots d'Isaïe sur sa propre famille pour les mettre dans la bouche de Jésus des siècles plus tard, c'est osé, non ?
Ça peut sembler osé pour nous, oui, mais il faut vraiment se replacer dans la tradition d'interprétation juive du 1er siècle. Ils pratiquaient ce qu'on appelle le pécher ou le midrash.
Okay.
Pour eux, les textes prophétiques avaient des couches de sens cachées. Et ces sens ne se révélaient qu'à la fin des temps, à la lumière des événements récents, Donc, il n'y avait rien d'hérétique à prendre les mots d'Isaïe et à dire « Voilà, c'est en fait le Christ qui parle ».
Ah, c'est juste la révélation du vrai sens, en fait.
Voilà. Et le message est puissant. C'est Jésus qui déclare publiquement sa solidarité totale. « Me voici, moi et les enfants ».
Il revendique son affiliation avec des marginaux. Et c'est ça qui définit son titre de grand prêtre, le fameux archiréos. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit prêtre, on pense juste à un gars qui fait des cérémonies à l'église.
La liturgie, oui.
Mais dans l'Antiquité, le terme latin, c'est pontifex, le constructeur de ponts, le courtier, le médiateur. C'est un peu comme, si on conceptualise ça aujourd'hui, un mentor de très haut niveau dans une entreprise.
Un mentor avec un capital social énorme.
Exactement. Ce mentor, il a un pouvoir fou et il décide de l'utiliser pour soutenir des employés d'en bas qui sont en galère. Sauf que ce mentor-là, il n'a pas juste une pitié distante depuis son bureau vitré. Il a lui-même fait le stage tout pourri au sous-sol, il a survécu aux mêmes épreuves.
C'est ça, la médiation est basée sur une empathie absolue. Le système de patronage, ce qu'on appelle le brokerage en anglais, c'était la base de la société méditerranéenne antique. Pour atteindre le sommet, il fallait un médiateur.
Et là, le médiateur, il te comprend vraiment.
Oui, et d'ailleurs, ce concept d'un lien fraternel avec l'instance suprême, ça parlait beaucoup aux gens de l'époque. Ça résonnait même avec la philosophie stoïcienne. Sénèque parlait de la source céleste commune à toute l'humanité, tu vois.
D'accord.
Et Paul, il cite même le poète stoïcien Aratus à Athènes en disant qu'on est tous de la race divine. Donc, l'auditoire captait très bien cette idée de fraternité cosmique.
Mais la différence majeure ici, c'est que l'auteur insiste sur le fait que ce leader n'a pas honte d'eux. L'annulation de la honte, c'est génial, mais ça règle pas le vrai problème final.
Le problème physique, tu veux dire ?
Ouais, parce que si la honte sociale marche plus, les autorités romaines, elles avaient encore un outil plutôt efficace, l'exécution.
L'ultime outil de coercition, oui.
Et c'est là que le texte s'attaque au boss final, la peur primitive de l'humanité, la mort.
Absolument. Faire sauter ce verrou psychologique, c'est la clé de voûte de l'argumentaire. Et là encore, l'auteur fait une synthèse brillante entre la philosophie gréco-romaine et la vision apocalyptique juive.
Comment ça ?
Pense à Socrate. Dans l'imaginaire antique, c'était le summum du courage moral. Il boit la ciguë sans trembler pour montrer que la peur de mourir doit jamais t'empêcher de faire ce qui est juste.
D'accord, l'idéal de la belle mort.
Exactement. L'auteur des Hébreux reprend cette idée, mais il l'applique à Jésus à une échelle cosmique.
Ouais.
Le texte dit que par sa mort, Jésus a littéralement détruit celui qui détient le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable.
Et cette peur de la mort, dans l'analyse, j'ai trouvé ça fascinant de l'avoir décrite comme une sorte de système d'exploitation invisible.
C'est une super métaphore.
Tu sais, comme un code racine, une appli qui tourne en permanence en arrière-plan sur ton téléphone et qui te vide la batterie. Sauf que là, c'est l'esprit humain. Ça draine notre énergie psychique et ça dicte nos comportements de façon complètement secrète.
Le docteur De Silva l'explique avec beaucoup de lucidité. Le fait de savoir qu'on va mourir, de savoir qu'on va retourner au néant, ça crée une angoisse fondamentale en nous. Et l'humain, il déteste cette angoisse. Donc, on met en place des mécanismes de compensation.
C'est ce OS de la peur qui nous pousse à l'accumulation frénétique, non ? Genre, amasser des richesses, s'acheter la plus grosse voiture, vouloir tout contrôler dans sa vie, se bâtir des petits empires.
Oui, tout ça, c'est juste un bouclier.
C'est une tentative désespérée de se barricader contre la mort, de se créer une illusion de permanence. Et le texte, il vient te dire que ce système d'exploitation a été brisé. C'est une libération radicale de cet esclavage.
Et les implications sociales d'une telle libération sont franchement vertigineuses. Pense-y, si l'angoisse de la mortalité disparaît, tous les leviers de contrôle de la société s'effondrent.
Ah ouais, c'est vrai.
Comment un empereur ou un magistrat peut te forcer à faire quoi que ce soit si tu n'as plus peur de perdre la vie ?
Bah, il peut plus.
Voilà. Alors les petites menaces, genre « on va confisquer ta maison, tu vas perdre ton boulot ou ton statut », ça devient juste des ombres. Ça n'a plus aucune prise sur toi.
Ça rend les gens littéralement ingouvernables par la terreur, en fait. C'est une armure psychologique impénétrable face aux tyrans.
Absolument. C'est pour ça que c'est si puissant pour cette communauté.
Mais tout ça, cette vision d'un prêtre céleste qui vainc la mort avec autant d'empathie, c'est super novateur. Et ça soulève une grosse question historique.
Laquelle ?
Au 1er siècle, pourquoi miser sur un leader sacerdotal, un prêtre ? La logique de l'époque, c'était plutôt d'attendre un roi guerrier, un descendant de David, qui allait débarquer et écraser les Romains par la force, non ? Comment on en est venu à espérer un messie prêtre ?
Ah, pour comprendre ça, faut faire un petit saut dans le temps. Faut reculer d'environ 2 siècles, à l'époque des Séleucides sous le règne d'Antiochos IV.
Ok, la révolte des Maccabées, tout ça.
Voilà. Et il faut bien comprendre que le grand prêtre, à cette époque, c'était pas juste un chef religieux. En Judée, c'était le centre de l'ordre cosmique et social. tout tourner autour de lui.
D'accord.
Or, cette fonction, elle a été corrompue de la façon la plus abjecte possible.
Ah ouais, une corruption qui touchait la vie de tous les jours, quoi.
Un scandale monumental qui a brisé la confiance de toute la nation. T'as des personnages comme Jason ou Ménélas qui ont littéralement acheté le titre de grand prêtre avec des pots de vin à Antiochos IV, un roi païen.
Aux enchères, carrément?
C'est ça. Le plus offrant obtenait le contrôle du temple de Jérusalem. T'imagines le dégoût viscéral de la population. L'institution la plus sacrée transformée en un vulgaire marché politique.
C'est ce qui a provoqué des fractures énormes, on est d'accord, hein?
Les gens qui partent dans le désert, tout ça.
Oui, le docteur De Silva fait d'ailleurs le lien avec les fameux manuscrits de la mer morte à Qumran.
Quand tu lis ces textes, tu vois bien que l'espoir n'est plus juste placé dans un roi. Il y a une attente brûlante pour ce qu'ils appellent un messie d'Aaron.
Un prêtre, donc.
Un prêtre pur, intègre, incorruptible. Et toute la littérature de cette époque entre les deux testaments regorge de cette attente. De Silva cite le testament de Lévi, par exemple.
Et le chapitre 18, c'est ça, hein ?
Exactement, le chapitre 18. Ce texte, il prophétise carrément l'arrivée d'un nouveau prêtre qui n'aurait rien à voir avec les corrompus. Un prêtre qui lirait l'esprit du mal, qui anéantirait le péché et rouvrirait le paradis. Une figure de pureté absolue.
Donc l'attente était là, l'héritage est clair, mais l'auteur des Hébreux, il ne se contente pas de faire un copier-coller des textes Qumran. Il prend cette attente et il lui fait subir une mise à jour radicale.
Une mise à jour massive, oui. C'est la grande rupture théologique de cette épître. Les gens de l'époque espéraient qu'un bon prêtre allait revenir sur terre nettoyer le temple de Jérusalem. L'auteur des Hébreux, lui, il déplace tout dans le ciel.
Le sanctuaire n'est plus sur terre.
Non, c'est la sphère divine elle-même. Et la plus grande innovation, le truc qui détruit tous les anciens paradigmes, c'est la nature du sacrifice.
Parce qu'il n'amène pas un mouton.
Exactement. Ce messie, prêtre, dans un geste de solidarité totale avec l'humanité, il n'offre pas le sang d'un animal. Il s'offre lui-même.
Le médiateur devient la médiation.
C'est magnifiquement dit.
C'est la fin magistrale de tout le système sacrificiel. Ça montre une empathie qui va jusqu'au bout. Si on synthétise l'analyse de De Silva, on voit à quel point cette rhétorique est intelligente. Pour ce groupe qui a tout perdu, l'auteur a construit une toute nouvelle architecture mentale.
Une nouvelle façon de voir le monde, oui.
La souffrance n'est plus un échec, c'est un achèvement. C'est un chemin tracé par un pontifexe qui a connu la même vulnérabilité. Ça détruit totalement la légitimité de la honte que la société essaye de leur imposer.
Et c'est ça qui rend l'application pratique du texte si pertinente. L'auteur n'arrête pas de leur dire de s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Et là, on comprend que c'est pas juste pour demander de l'aide quand on a une petite tentation interne.
Ouais, c'est beaucoup plus grand que ça.
C'est un appel à trouver de la force face aux pressions externes, quand la société tout entière essaye de te faire plier. Tu sais que ton intercesseur comprend cette violence sociétale parce qu'il l'a vécue.
Ça donne une résilience de dingue, savoir que tu souffres pas en vain. Et franchement, ça donne envie d'amener cette réflexion encore plus loin, au-delà du texte ancien. Notamment sur cette idée du système d'exploitation de la peur de la mort.
Ah oui, le fameux Wes.
Parce que cette angoisse de la mort, ce peu d'invisible, c'est vraiment ce qui rend l'humain si timide face à l'injustice. C'est ce qui nous force à nous accrocher à notre petit confort, à notre sécurité matérielle, qui est pourtant super éphémère.
On a tellement peur de tout perdre.
Alors, on peut se poser une question assez vertigineuse pour clore cette analyse. Combien d'injustices systémiques, d'abus de pouvoir dans notre société actuelle perdurent uniquement parce qu'on est tous maintenus dans cette paralysie Wes?
C'est une excellente question.
À quoi ressemblerait concrètement notre monde dès demain matin si une masse critique de personnes décidait soudainement que ce programme de la peur était désinstallé de leur cerveau?
Ça changerait absolument tout.
Comment on repense le risque, l'engagement ou même l'idée de réussite quand l'instinct de préservation n'est plus le seul truc qui dirige nos vies? Ça donne de quoi repenser nos propres moments de vulnérabilité. Merci d'avoir suivi cette exploration en profondeur et on espère que cette réflexion continuera de cheminer pour tous ceux qui nous écoutent.